La revue francefineart.com présente. Laurence Aguerter, vous êtes artiste plasticienne et nous nous rencontrons dans le cadre de votre exposition au Petit Palais, ici mieux qu'en face, où vos œuvres dialoguent avec les collections du Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Sous la forme d'une carte blanche et s'articulant autour d'une cinquantaine d'œuvres disséminées dans les différents espaces du Petit Palais, dialoguant ainsi avec les collections du musée où le Petit Palais renoue avec ses origines, où je le rappelle, à l'aube du XXe siècle, il est au cœur de la création contemporaine, ici mieux qu'en face, est un voyage dans l'histoire de l'art où vous offrez aux visiteurs une traversée insolite du musée. Un musée que vous avez vous-même habité pendant plus de 2 années où, en continuant de questionner votre sensibilité et vos préoccupations plastiques, vous avez ajusté votre regard, vos œuvres à l'identité, à la chronologie, à l'histoire du musée. Alors avant de découvrir ce dialogue où vos œuvres, qu'elles soient photographies, tapisseries, sculptures, céramiques ou installations in situ, viennent souligner et dialoguer avec les habitants, les âmes du Petit Palais, pour mieux appréhender cette conversation entre vos œuvres et les collections. À la proposition de ce projet, à la découverte des collections du Petit Palais, de votre première visite au musée, dans ce premier échange, quelles ont été vos premières impressions, l'exposition étant un accrochage dans le parcours des collections permanentes de l'Antiquité au XIXe siècle. Quelle période peut-être de la collection vous a-t-elle le plus interpellée? Celle-ci est-elle en lien avec la peinture hollandaise du XVIIe siècle que vous avez, je le rappelle, étudiée à Amsterdam lors de votre diplôme en histoire de l'art?
Enfin, la partie de la collection du musée du Petit Palais qui me touche le plus, c'est quand même dans la salle des grands formats, les très grands tableaux du XIXe siècle qui montrent la misère humaine en fait et la pénibilité du travail, mais aussi qui glorifient le travail extrêmement dur des ouvriers. Ça, j'avoue que ce sont des pièces qui sont parfois pénibles à regarder, mais qui me touchent beaucoup. Oui, qui me touchent beaucoup. Et puis le fait de les voir dans cette pièce d'une vingtaine de mètres de hauteur pose beaucoup de questions. Surtout les contrastes dans lesquels nous vivons et les ambiguïtés de tous les choix que nous avons à faire au quotidien aussi de l'état du monde. Donc je crois que c'est vrai que donc toute la fragilité qu'on trouve dans les sujets qui sont peints dans ces grands tableaux, mais aussi dans les sculptures du 18e ou 19e qui les entourent, ça c'est quand même, c'est par là que le musée m'a le plus marqué tout de suite en fait.
Pour continuer de découvrir vos œuvres à travers ce dialogue avec le Petit Palais dans son architecture, le musée laisse une grande place à la lumière naturelle, une lumière qui a également une grande importance dans votre œuvre, où celle-ci est la matérialité même de certaines œuvres, et je pense tout particulièrement à Cathédrale de 2014, mais également à Soleil couchant sur la scène à Lavacourt de 2020, où le soleil en est ici donc le sujet. Alors dans votre processus de création, comment la lumière est-elle devenue un vocabulaire plastique? Et ici au Petit Palais, comment faites-vous dialoguer vos œuvres avec cette lumière naturelle du musée?
C'est une question qui est un petit peu délicate parce que je crois que je le fais de façon différente. Dans la pièce, dans la lithophanie, donc le sommeil Thérésou, j'utilise la lumière naturelle qui rentre dans le musée en positionnant ma lithophanie devant cette grande baie vitrée dans la salle des grands formats. Et je laisse au soin de la lumière de révéler cette image au gré des moments de la journée. Alors le moment qui est le moment d'exception, je pense, c'est le moment où le soleil entre vraiment dans le musée. Et c'est en général vers midi, si je ne me trompe pas, que le soleil vient traverser la salle et donc passer à travers la lithophanie et révéler complètement l'image de cette petite fille qui dort. Ça, je crois que c'est sur le plan de la lumière, c'est une expérience qui peut être forte, enfin, en tout cas pour moi, de voir les différentes... comment la lumière en fait révèle une image qui lui donne une identité complètement différente et une présence complètement différente. Donc c'est une expérience qui, j'espère, par cette pièce, peut devenir aussi très concrète pour un visiteur.
Alors comme je l'évoquais dans l'introduction, pendant plus de 2 années, vous avez habité avec les collections du Petit Palais, où certaines des œuvres de la collection sont devenues source de création, voire la matière même de certaines œuvres, et je pense à à Harpe qui pleure, à, vous l'avez évoqué, le sommeil Teresu, ou à les quatre parties du monde, ou encore un manteau de protection. Alors pouvez-vous peut-être nous raconter les histoires de ces rencontres? Comment ces œuvres ont-elles été source d'inspiration, matière à création? Et comment avez-vous réinterprété ces œuvres? Et dans le processus, entre guillemets, de restitution, comment vos œuvres viennent-elles dialoguer peut-être avec les œuvres inspirantes?
Pour les soleils couchants sur la scène à Lavacourt, donc soleil au pluriel, je suis partie du tableau que j'adore, que j'aime le plus au Petit Palais, qui est ce magnifique tableau de Monet dans des teintes chaudes d'un soleil couchant sur la scène. Donc c'est un moment à la fois très très banal, mais puisqu'il ne se passe rien, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette scène, en tout cas en événement, et à la fois tout est exceptionnel dans la lumière, dans la douceur, vraiment le moment est palpable, et il est très sensoriel quelque part, parce qu'on ressent quasiment la lumière en regardant ce tableau, et surtout qu'il a la taille, il est suffisamment grand pour que le corps soit vraiment... pour qu'il enveloppe le corps du spectateur qui se rapproche un peu. Donc c'est un tableau que j'aime énormément et qui m'a donné envie de travailler autour de lui en hommage à cette expérience et au magnifique travail de Claude Monet. J'avais eu envie d'étendre cette sensation du soleil couchant à ma façon, et pour cela j'ai décidé de littéralement l'étendre aussi dans la verticalité en répétant un certain nombre de fois le soleil dans le ciel, et de travailler aussi de me questionner sur la symétrie et leur impact sur le ressenti de la sérénité, de l'harmonie. Donc c'est autour de ces questions-là que j'ai développé cette tapisserie en jacquard.
On peut peut-être s'attarder sur la harpe qui pleure.
D'accord. Quand je me suis promenée dans la galerie Tuck, du mécène donc Tuck, là c'est la galerie, une enfilade de galeries magnifiques avec des boiseries du sol au plafond et remplies d'objets d'art et de meubles du XVIIIe siècle, de tapisseries. Il y avait au bout de cette galerie une harpe qui était vraiment assez triste parce qu'il lui manquait les trois quarts de ses cordes. Et naturellement j'ai eu envie de venir lui mettre de nouvelles cordes. D'ailleurs quand j'installais la pièce, des visiteurs qui pensaient qu'on était, mon assistante et moi, restauratrice de harpe. Et en fait, c'est peut-être le cas d'ailleurs. Donc on lui a rajouté des cordes, mais surtout, le long des cordes, je voulais installer des larmes. Des larmes qui sont des larmes de mélancolie, mais aussi peut-être aussi des larmes de joie parfois. Dans chacune de ces larmes de verre, ce sont des cordes en boyau de chat. Hein. Je ne savais pas, mais c'est assez... c'est un matériau assez dur, et donc j'ai voulu poser des larmes en verre que j'ai réalisées au centre d'art verrier à Maisenthal, et dans chacune de ces larmes se trouve une lettre en filigrane blanche très très fine, ou un chiffre, et cette multitude de lettres et de chiffres peuvent ont ensemble le potentiel de créer une infinité d'histoires personnelles, d'histoires de regrets, de chagrin, ou effectivement de grandes joies, d'émotions. Et c'était, on peut penser à des adresses, à des numéros de téléphone de gens qu'on a perdus et qui continuent de nous denter nos têtes, de se promener dans nos têtes, même des années plus tard. C'est ce que j'ai eu envie de... Ça a été ma façon d'approcher cette harpe de la galerie Tuck, oui.
Et peut-être pour évoquer encore une œuvre, parce que je les trouve... précédemment, vous parliez de ces grands tableaux qui parlent de la misère, des enfants, bref. Et il y a ces manteaux de protection, mm-hmm, en vis-à-vis de ces grands tableaux, grand format.
Il y a quelques pièces, quelques sculptures en marbre qui présente des scènes très dures, ou parfois pas dures, mais dans laquelle le personnage est dans une situation d'abandon qui le rend vulnérable. Et ce sont j'ai choisi pour trois de ces sculptures de marbre une bacchante allongée, Adam et Ève portant leur fils à belle mort, et une petite fille pleurant. J'ai eu envie de les envelopper d'un tissu que j'ai fait réaliser au Textile Lab à Tilburg. d'un tissu que dans lesquels j'ai inséré des motifs des motifs de protection, des motifs de production symbolique, parfois religieuse, parfois non, mais de différentes époques et de différentes cultures que j'ai réparties sur ce tissu, mais qui deviennent invisibles parce que je ne voulais pas qu'ils soient présents, trop présents, trop littéral finalement dans leur lecture. Mais ils y sont bien et j'ai tissé ces manteaux de protection de façon très lâche, de façon à ce que l'œuvre respire, mais qu'elle soit enveloppée, qu'elle continue d'être visible, mais qu'elle soit enveloppée d'un voile par ce tissu qui quelque part peut lui donner force, courage, espoir. Voilà, ce sont des pièces qui en fait reproduisent ce que j'aimerais faire au naturel si ces figures étaient devant moi en vie, en réalité. Voilà.
Et peut-être pour évoquer une œuvre inspirée ici par un autre musée, celui-ci situé à Amsterdam et qui vient ouvrir le parcours du visiteur. Il s'agit donc d'un miroir, ici mieux qu'en face, qui donne son nom au titre de l'exposition. Alors dans ce jeu du double où l'original semble être mieux que le reflet, invitant ainsi le regardeur à l'évasion, à regarder le monde qui l'entoure peut-être différemment, pour vous, quel est le signe, la pensée de cette œuvre? Pourquoi est-il important qu'elle soit placée à l'entrée du parcours?
C'est une œuvre que j'aime énormément parce qu'elle est ouverte pour moi, en tout cas, en tant que créatrice, elle continue de moi me questionner. Ça, c'est une chose qui est très importante. Elle me questionne dans le sens où se trouve ici, où se trouve en face. C'est une question à laquelle personne ne pourra répondre. Et c'est une question à laquelle se trouve aussi un très grand mystère de l'existence, de l'illusion, du réel. Quand est-ce qu'on est vraiment dans le réel ou quand est-on illusionné par rapport à son expérience et à son ressenti de l'expérience? Je crois qu'il y a énormément de stratégies d'échappatoire par rapport à cette dureté du réel. Et un philosophe que j'adore, c'est Clément Rosset, qui en parle très très bien dans le petit livre « Le réel et son double », qui est vraiment un compagnon de route pour moi très très précieux. Oui, c'est peut-être en fait c'est une pièce qui est importante pour moi, parce qu'elle est quand même, je crois qu'existentiellement, elle se trouve aussi un peu à l'essence de mes questionnements personnels. Et c'est pour ça aussi, bien entendu, que j'ai eu envie de la positionner en début de parcours. Après, c'est certain que l'architecture du musée s'y prêtait remarquablement bien, parce que donc, la grande galerie de sculpture elle-même est symétrique. Donc il y a aussi ce jeu d'illusion, de réflexion parfaite dans la symétrie de l'architecture. Et puis en plus, mais ça vraiment c'est venu en sus, parce que la pièce existait déjà dans ma tête avant même l'exposition, il se trouve qu'il y a ce petit clin d'œil humoristique que j'aime beaucoup par rapport au Grand Palais, et surtout dans les périodes très tristes actuelles où plus rien ne s'y passe. Donc nous, on a la chance d'être existants au Petit Palais avec notre exposition et avec ces magnifiques collections permanentes. Donc voilà.
Et une dernière chose pour conclure notre entretien, évoquer l'exposition dans son ensemble, son parcours étant un dialogue entre vos œuvres et les collections du Petit Palais. Dans cette composition, ce collage orchestré proposant une relecture de l'histoire de l'art, quelles sont peut-être ces nouvelles pistes que vous proposez aux visiteurs?
Ah ben ça, ce sont des questions, une question que je dois vous poser plutôt, parce que je crois qu'il y a plusieurs approches, il y a plusieurs façons de jouer avec les chefs-d'œuvre et les œuvres du passé. En tout cas, s'il y a une ligne générale, c'est que justement, l'art est, pour moi, en tout cas dans ma perception de l'art, c'est une œuvre ouverte. Et qu'aussi bien l'exercice de ma propre liberté d'expression, ou celle que je vois d'ailleurs chez mes collègues, chez mes confrères, je trouve qu'il y a énormément de... On apprend tant de nos ancêtres artistes, et il y a tant à apprendre, il y a tant à, à, Il serait pour moi ridicule de prétendre, bon en tout cas triste de ne pas regarder en arrière pour pouvoir mieux regarder en avant. Et moi j'ai énormément de joie quand je fais mon travail, de ressentir cette liberté justement, et c'est une joie que j'espère partager. J'espère aussi pouvoir démystifier pour des publics qui parfois peut-être ont des complexes d'infériorité en se disant qu'ils ne comprennent pas l'art ou qu'ils n'ont pas assez de connaissances et tout ça. Et qu'en fait, non, que c'est se mettre juste au niveau de l'intuitif, du ressenti, et s'autoriser des relations personnelles et très directes, très spontanées, face à des images qui font partie de notre inconscient collectif.
Merci beaucoup.
Ouais, je t'en prie, merci à toi.
Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.